le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Bonjour Stéphane Gatignon.
Bonjour.
Maire démissionnaire de Sevran en région parisienne, vous accordez quelques crédits au plan banlieue présenté jeudi par Jean-Louis Borloo au Premier ministre, mais ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Un plan qui n'utilise que de vieilles recettes qui ont échoué, c'est ce que pense Rachida Dati. A-t-elle entièrement tort ?
En tout cas, elle n'a pas raison. Enfin, je l'invite à lire le plan dans le détail. Je pense que l'intérêt du plan, y compris dans la discussion qu'il y a eu autour du plan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est né quand même de la mobilisation des élus à l'été dernier, suite à la fin des contrats d'avenir et à quelques coupes dans les questions de politique de la ville. Et donc, il y a eu une mobilisation d'élus avec les associations qui ont créé les états généraux de la ville et qui ont fait que ça a été un processus. Voilà. Y compris, je pense que la position de Jean-Louis Borloo n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, la banlieue telle qu'elle est, les zones périphériques, ce qu'on appelle la banlieue, par rapport à ce qu'il a connu en 2003, 2004, 2005, au lancement de l'ANRU et de ses révisions
politiques de la ville... L'Agence nationale de rénovation urbaine.
A changé. Et aujourd'hui, je trouve que le plan est vraiment... c'est une vision globale, finalement, de la société et donne un sens à ce qui peut être fait localement avec des propositions très concrètes, j'allais dire, de 7 à 77 ans. C'est-à-dire que ça couvre les différents champs de la vie avec des possibilités.
On va détailler verticalement quelques-unes de ces mesures, mais dans l'esprit général, quel est le principal enjeu, à vos yeux, de ce plan Borloo ?
Mobiliser la nation. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question financière et qu'une question de l'État. C'est il faut mobiliser la nation dans le sens où ça concerne tout le monde, et y compris dans la mobilisation financière. Si vous prenez la petite enfance, par exemple, il y a un gros train. Moi, je pense que c'est quasiment l'essentiel. Les 30 000 places de crèches dans nos quartiers, dans nos villes périphériques, c'est extrêmement important. Ça, c'est de la mobilisation de la Caisse nationale location familiale, et c'est l'idée de mobiliser pour faire ses places à la fois d'investissement et derrière en fonctionnement, de soutien à 80% en gros du fonctionnement par la CAF. C'est la mobilisation de l'excédent qu'il y a aujourd'hui à la CAF. Donc, ce que je veux dire,
c'est que... Ça veut dire aussi que la CAF va devoir se repenser.
Il va falloir que la CAF travaille sur elle-même pour se dire, voilà, il faut intervenir différemment. Mais ça, c'est par exemple quelque chose d'absolument clé, parce que comment des familles, des femmes dans les quartiers, il y a cette question du rapport homme-femme dans les quartiers qui est extrêmement important, et la question derrière, quand on a des enfants en bas âge et qu'on n'a pas d'accueil sur la petite enfance, comment on peut retourner vers l'emploi, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, j'allais dire, clés, terre à terre, basique, mais qu'il faut absolument réussir.
Mesure clé, je reviens à la critique de soi-disant vieilles recettes qui n'ont pas fait leur preuve. Qu'y a-t-il de réellement nouveau, finalement, dans ce plan Borloo ?
Mais je pense que ce qui est nouveau, c'est cette vision un peu globale. Voilà, cette vision globale, vous avez vu, il y a 17, 18 chantiers. 19 chantiers. Après, il y a des chantiers, bon. Mais ça prend... On est souvent été uniquement sur les questions urbaines. Voilà. Aujourd'hui, y compris notre vision de l'urbain, doit être différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement à refaire du bâti ou à démolir, à reconstruire à 50 mètres pour les mêmes personnes. Il faut qu'on s'interroge, et c'est ce que dit un peu aussi Borloo dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut que, y compris la technostructure, se remette en cause sur, y compris, comment on voit la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on voit comment on voit nos villes. Et c'est un des soucis qu'on a quand on refait, par exemple, des nouveaux quartiers aujourd'hui. On essaye de mixer le type de logement, d'avoir des résidences étudiantes, des résidences pour personnes âgées, des résidences pour jeunes, mixer tout ça avec de la copropriété, du logement social de base, évidemment, mais aussi du logement intermédiaire. Et c'est là où on a des soucis aujourd'hui. Quand on fait des nouveaux quartiers comme ça, je le vis, moi, à Sevran, on a sorti des nouveaux quartiers on essaye de sortir des nouveaux quartiers de ce type-là pour changer, justement, la donne dans nos villes. Et là, on se confronte aux structures de l'État qui, eux, veulent laisser et faire en sorte qu'on laisse les plus fragiles avec les plus fragiles.
On va parler de la bureaucratie qui est un frein à tout projet, à toute initiative. Je voudrais revenir précisément sur ce que vous avez dénoncé ou affirmé plusieurs fois déjà. La place de l'école, par exemple, dans une ville, ce n'est jamais innocent.
C'est
dans le quartier.
Ce qu'il faut bien comprendre, on est dans des territoires très jeunes. C'est pour ça que je parlais de la petite enfance qui est essentielle.
À Sevran,
c'est 25% de la population qui a moins de 14 ans. Voilà. Et 35% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est deux chiffres importants à avoir en tête. Mais ça veut dire qu'on a une responsabilité, la commune en plus, parce que c'est la responsabilité régalienne de la commune, de mettre à disposition les écoles et tout ça. Donc l'enjeu qu'il y a à la fois autour de l'école, c'est-à-dire que quelque part... il faut aussi qu'on a une école, il y a à la fois l'éducation nationale d'un côté, les autorités locales de l'autre, il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liens avec, dans le rapport Borloo, la question des nouvelles technologies et de lieux. Moi je vois, nous on a implanté la microfolie avec la Villette à Sevran avec 9 musées nationaux, on voit l'impact qu'a la microfolie sur le collège à côté, sur les écoles et tout, sur cette question de nouvelles technologies, c'est absolument important et essentiel, et il faut que ce soit ancré au cœur de l'école. C'est pour ça que Borloo parle de cité éducative, beaucoup plus mixte, avec beaucoup plus d'intervenants différents qui viennent là. On voit quand même, et au niveau de l'État, la question des rythmes scolaires qui nous a été un peu imposée dans le mandat précédent. Là, on est en train de revenir dessus sans tirer, y compris sans analyse de ce qui était positif et négatif dans tout ça. Comment on arrive à regérer tout ça? On voit bien que les gouvernements successifs dans l'école passent, on fait des réformes, on n'analyse pas les échecs et les côtés positifs qu'il peut y avoir avant. Donc il faut que tout ça se fasse, il y a des responsabilités à tous les niveaux. Mais l'école, il faut mettre le paquet. Je dis aussi que le gouvernement, une des bonnes mesures qui a été prise, c'est le dédoublement des CP dans les classes ZEP. Aujourd'hui, on est au CE1. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à faire les dédoublements des CP. CE1, ça devient très compliqué. Ouais. Il faut continuer jusqu'au CM2, mais c'est aujourd'hui quasiment impossible pour des questions financières, parce que maintenant, faut agrandir les choses.
Nombre de profs.
Et ça devient très compliqué. Question financière, je parlais des communes pour agrandir les locaux, et évidemment des enseignants pour l'éducation nationale. Mais c'était une bonne réforme, et je pense que les résultats, moi, de ce que j'en sais comme ça jusqu'à présent, sont extrêmement positifs.
Vous dites que la façon de vivre dans les quartiers évolue très vite avec les années. Depuis près de 18 ans que vous étiez à la tête de Sevran, qu'est-ce qui a changé en 18 ans pour les habitants de Sevran, ce changement qui va très vite?
Déjà, je pense dans la société, ce qui a changé par rapport aux jeunes, et quand on était, j'allais remonter à 40 ans, tu sais, moi j'ai un adulte d'Argenteuil, c'est ça, hein.
C'est l'ancrage aujourd'hui. C'est le téléphone.
C'est le téléphone. C'est l'ancrage sur la nouvelle technologie. Avant, quand un jeune de cité, son échelle, c'était beaucoup le quartier, les tours autour. Après, c'était le quartier. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Ça change beaucoup, beaucoup de choses, y compris dans la relation au monde et la relation dans le quartier. Voilà. Après, des choses ont, après, sur la vie courante, des choses ont avancé. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où nous, en tant que responsables publics, on a des responsabilités sur la commune, sur la ville qu'on construit demain. Voilà. Et pour arrêter ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ANRU, c'est-à-dire qu'on refait effectivement des immeubles, mais on démolit pour reconstruire à 50 mètres et finalement, on laisse toujours les mêmes personnes au même endroit, etc. Et c'est là où on structure finalement le ghetto et où là il y a un souci. Et quand je dis il faut faire péter le ghetto, oui, il faut le faire péter. Et ça demande pas d'argent, ça demande surtout une révolution culturelle chez les politiques et dans l'administration.
Révolution culturelle pour faire, je vous cite, péter les ghettos. Et cependant, dans le plan Borloo, rien sur la sécurité, rien sur les trafics de drogue, rien sur le rôle de la police. C'est une des lacunes.
Dès le départ, dans le plan Borloo, tout ça, dans sa mission du président de la République, tout ça a été écarté, puisque l'idée, c'était de dire que Colomb, ministre de l'Intérieur, avec la police de sécurité du quotidien maintenant, réglait ces questions-là. Je tiens à dire quand même que c'est un vrai, vrai problème. Il y a question de moyens. Juste un exemple, hein. Sevran, j'ai été élu maire en 2001, il y avait 113 effectifs de police. Aujourd'hui, 17 ans après, il y en a 80. Donc on voit bien que dans des situations comme ça, Aulnay-Sevran, le commissariat central d'Aulnay-Sevran, c'est une voiture de la BAC à partir de 11h pour les deux communes.
Avec des promesses du gouvernement de rénover les effectifs policiers.
Bon, voilà, on a rénové les locaux, mais il n'y a pas d'effectifs policiers suffisants pour assurer vraiment une présence. En même temps, attention, le rapport Borloo va quand même sur des bouts de sécurité. Il y a la question des correspondants de nuit qui est abordé dans le rapport, donc il est un peu plus loin, et la question de la justice. Il y a la proposition qu'il y ait 2000 personnes en plus au niveau de la justice pour travailler, parce qu'il faut savoir, vous allez au tribunal de Bobigny, c'est une catastrophe absolue. Voilà, c'est l'embouteillage total, les conditions de travail sont difficiles, il n'y a pas assez de monde, donc il faut renforcer aujourd'hui la justice.
Le 6-9 du week-end, Éric Delvaux. Sur France Inter.
L'invité ce matin de France Inter, le maire démissionnaire de Sevran, Stéphane Gatignon. Question sur les propositions Borloo pour mieux vivre dans les quartiers. D'abord, Stéphane Gatignon, une première question de Patricia Martin.
Oui, vous avez dit vous-même que ça avait été un honneur d'être maire pendant 17 ans.
Absolument.
Est-ce que cette démission ne rime pas un petit peu avec une sorte d'abandon? Ou alors est-ce que vous voulez que ça serve d'exemple? Vous voudriez que d'autres maires fassent comme
non,
vous?
Non, vous savez, je pense que déjà un...
Parce que vous auriez pu attendre les prochaines municipales et pas vous représenter, tout simplement.
Oui, mais... Pour dans une ville comme Sevran, je pense, puis dans les communes, vous savez, quand vous levez le matin, faut avoir la niaque pour y aller, quoi. Et ça, Ça, c'est essentiel parce que les relations, c'est beaucoup de l'humain, beaucoup de relations pas simples. Voilà. Et donc, il faut, si vous n'êtes pas à fond, c'est compliqué.
Et vos électeurs, ils en disent quoi, là?
Non, ça a été un petit peu dur au début, mais après, je pense que les gens ont compris. Et puis, c'est vrai que, bon, on est sur le plan banlieue, il y a tous ces enjeux-là autour, donc les gens comprennent un peu la situation. Et après, vous savez, je pense que c'est bon. Enfin, 17 ans, c'est long quand même, hein, y compris en termes de pouvoir. Je me rends compte que le pouvoir, même d'un maire, c'est vous pratiquez seul. C'est pas si simple, même si on essaye de partager tout. Et tout ça, donc, ouais, je pense que c'est bon aussi pour la démocratie. Il y a des moments, faut aussi tourner
la
page.
Le pouvoir, ça use.
Le pouvoir, ça use. Et puis, c'est aussi c'est enivrant, c'est compliqué, c'est difficile de quitter le pouvoir aussi. Vous savez, c'est pas facile. Donc, il faut aussi se forcer de temps en temps. Et puis, faut, voilà, il y a des moments, il y a des ruptures, je pense, qui sont nécessaires finalement. Et je pense que là, c'était vraiment nécessaire. En tous les cas, il y a trop de choses que je supportais plus, y compris, on l'a dit, mais dans nos relations avec les services de l'État. Vous savez, il y a une préfète récemment qui m'a dit, mais vous êtes à Cariade, donc si tu deviens un moment à Cariade, j'ai dit, je suis à Cariade à cause de vous, donc il y a un moment, faut arrêter.
Pour préciser des choses, Stéphane Gatignon, à propos de votre démission de maire de Sevran, vous en voulez aux services de l'État à propos de ce qu'on a appelé la mosquée Daesh. Vous avez été lâché par le préfet. Ça a révélé d'ailleurs quel type de crise institutionnelle entre une ville et son préfet.
Je pense qu'il y a ça montre une vraie crise en France des institutions, effectivement. Moi, je pense qu'au-delà, il y a une crise démocratique très forte aujourd'hui en France. Je pense que le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne sait plus quel est le rôle de chacun. Aujourd'hui, le maire, il est responsable de tout, localement. Alors, il y a de plus en plus de
et pénalement.
Pénalement, mais et en plus, on a de plus en plus de responsabilités. Hein. Effectivement, là, depuis 2 ans maintenant, par exemple, les bouches à incendie sont de responsabilité directe, etc., dans les villes. Donc, c'est des choses qui... Il y a des choses qui s'accroissent comme ça. Vous avez de moins en moins de compétences, en plus, puisque nous, par exemple, tout va vers l'intercommunalité en région. À Paris, c'est vers la métropole et les territoires. Et puis, finalement, il y a un trouble. C'est-à-dire qu'on a eu des épisodes quand il y a eu les soucis avec des départs en Syrie, on a dit, c'est une famille qui dit c'est de la faute du maire, mon fils est parti en Syrie. Enfin, bon, on arrive à des moments très complexes. Donc, à un moment, sur des sujets comme ça, et en plus, moi, j'ai eu des habitudes de travailler notamment avec le préfet Lambert, lorsqu'il est en Seine-Saint-Denis, où on a travaillé sur la question des stupéfiants après l'histoire des casques bleus. Il y a eu un très gros travail sur la lutte contre les stupes en ville, qui a plutôt bien fonctionné, où on était dans un rapport de confiance. Et quand ça change, et quand
ça change,
les
préfets, c'est pas la même musique, forcément.
Et voilà, ils sont très frileux, c'est très dur. Mais le problème, c'est qu'on avait travaillé sur cette mosquée avec les services et les services de police et les services préfectoraux. Quand à la fin, vous avez un préfet qui dit, mais on n'en a pas parlé, c'est un vrai problème. Et là, vous sentez que vous êtes lâché, parce qu'en plus, dans cette lutte contre la radicalité et le terrorisme, il faut que tout le monde soit uni et tout le monde doit être dans son rôle. J'ai dit à plusieurs reprises, quand on a dit c'est la guerre, il faut savoir ce que doit faire chacun.
Mais ce que vous dites aussi, c'est que si cette mosquée Daesh n'a pas été fermée à Sevran, c'est parce que les renseignements avaient
des intérêts à privilégier. Mais je l'ai écrit tout ça, je l'assume, il n'y a aucun souci. Tout ça.
Stéphane Gatignon, maire démissionnaire de Sevran, région parisienne, on va aller au standard pour une première question. Pardon si j'écorche votre prénom.
Oui, ça se prononce Cassou.
Cassou, bienvenue. Et quelle est votre question?
Alors, il se trouve, bonjour à Stéphane Gatignon. Il se trouve que je suis porte-parole du CIRC, qui est le collectif d'information et de recherche cannabis, qui est la plus ancienne association d'usagers de cannabis, de cannabinophiles. Et ma question concernait le plan Borloo. Est-ce que Stéphane Gatignon pense que, sérieusement, qu'il pourra concurrencer en matière de budget la tentation du marché noir pour une partie des jeunes des quartiers populaires? Et s'il ne serait pas, enfin, j'imagine que sa position est toujours la même, elle était anti-prohibitionniste, si une légalisation ne serait pas beaucoup plus efficace déjà pour nettoyer, et le principe de licencier une partie des gens qui sont déjà sur ce marché-là, parce qu'il y en a qui sont très sérieux, qui font un excellent travail, effectivement, de revendeurs, pour leur donner un statut légal. Voilà.
Stéphane Gatignon.
Moi, là-dessus, je suis clair. C'est clair que c'est pas abordé dans le rapport Borloo. Faut être clair. Il y a une divergence assez forte, y compris entre les élus, entre tout le monde aujourd'hui. Moi, j'ai une position très claire là-dessus. Je pense que, faut que ce soit un débat, dans la société. C'est absolument nécessaire.
On parle de la légalisation.
Pour la sortie globale de la prohibition, donc, sur un aspect, la légalisation du cannabis, je pense que nous n'en sortirons que comme ça.
On a légalisé pour tuer l'économie souterraine?
Pas seulement, on a quand même d'abord un problème de santé publique très important, notamment chez les plus jeunes, on a un problème économique parce que l'argent sale crée une situation de déstabilisation économique claire. On a des problèmes de sécurité publique qui sont énormes, et on parlait tout à l'heure de la justice, mais la justice est complètement encombrée avec des petites histoires comme ça. Donc il faut sortir, mais c'est une vision un peu globale, sortir de la prohibition avec une partie de légalisation, de contrôle des ventes, etc.
Mais au sujet de Jean-Louis Borloo, il a été lui-même ministre de la ville, il a en quelque sorte failli de ce point de vue-là. Tout à l'heure vous disiez qu'il fallait mobiliser la nation, il a appelé à ça. Moi je me souviens qu'il disait avec beaucoup d'emphase qu'il fallait s'appuyer sur les mamans, par exemple, dans les banlieues, qu'il fallait une maison par maman.
Lorsqu'il était maire, ministre de la ville.
Ministre de la ville,
tout à fait. Je pense que il était ministre de la ville en 2003-2004. Il a fait essentiellement quand même la rénovation urbaine, plus la mise en place de tout un tas de dispositifs. La question, c'est que c'était il y a 14 ans que la situation a beaucoup évolué. Et c'est vrai que on voit après le suivi n'a pas. Enfin, ça a été aujourd'hui, c'est pas linéaire vers le haut, c'est linéaire vers le bas de ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un émiettement des politiques de la ville. On n'a pas retravaillé la question de la rénovation urbaine est typique là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai engagement au début, il y a eu un vrai travail, mais depuis quelques années, tout ça flotte. On n'arrive pas à passer à l'an rue 2, on nous en parle depuis 4 ans, 5 ans. On dit qu'on mobilise de l'argent. Aujourd'hui, l'État, c'est 400 millions pour 2017, par exemple, d'engagement sur l'ANRU, ce qui est rien du tout à l'échelle du pays. On est loin des 10 milliards annoncés. Voilà, ça c'est... Donc il y a plus de l'effritement, l'effilochement, et puis je pense qu'il y a une incompréhension des différents gouvernements qui sont succédés sur ce qui se passait et quelles étaient les dynamiques en banlieue.
Et à propos de dynamique, Jean-Louis Borloo a dénoncé la bureaucratie qui aurait pris le pas sur les projets, sur les initiatives. Vous-même, quand vous étiez maire de Sevran, quels sont les exemples précis de bureaucratie qui aurait bloqué des projets?
Très précis, enfin, j'ai évoqué à plein de reprises, c'est on a la chance, nous, d'avoir deux gares du Grand Paris qui s'installent, donc on a une autre vision des investisseurs, les gens viennent, on refait deux quartiers, dont un gros quartier en ce moment qui est sur des anciens terrains pollués, où justement on a beaucoup de construction, y compris d'habitat, donc c'est de mixer tout ce qui se passe en termes d'habitat. Donc on a une petite part de logements sociaux de base, ensuite du logement social, du logement intermédiaire, de la copropriété et des résidences. Résidences étudiantes, résidences personnes âgées, résidences jeunes actifs. Et donc on a réussi à avoir une première résidence étudiante. Et la deuxième, on nous bloque en disant, alors que l'État met pas d'argent, hein, c'est-à-dire qu'il y a les fonds sont là, la région est d'accord, il y a juste un tampon à mettre
pour que ça marche.
Et ça fait 3 ans qu'on est dessus, 3 ans qu'on discute, et on est encore aujourd'hui sur ce qui met en cause d'ailleurs l'équilibre général de ce projet-là, et la réponse des services de l'État, c'est de dire, mais il faut que vous faites pas de logement social là. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, l'objectif, c'est qu'il y ait des riches, des pauvres, qu'il y ait tout le monde. Mais il faut qu'on voit nos villes, et dans les constructions nouvelles, différemment sur ces questions. Justement, on est dans la mixité, c'est un peu la tarte à la crème depuis des années. Là, on est dans le concret. Donc aujourd'hui, il faut lever ces choses-là. Et en Seine-Saint-Denis, j'ai au moins 4, 5, 6 cas aujourd'hui de blocage de ce type de résidence dans des quartiers avec des investisseurs. Je le dis bien, parce que ce qui coûte cher à l'État, c'est le logement social de base. Là, on est sur d'autres choses qui l'État n'amène pas forcément d'argent, mais des autorisations.
Stéphane Gatignon, maire démissionnaire de Sevran, invité de la matinale. On va retourner au standard avec une question de Laura. Bonjour Laura.
Oui, bonjour tout le monde et bonjour à Patricia et bonjour. Surtout à vous et puis à France Inter. Je suis très fière qu'elle soit la première matinale de France.
Mais on vous le doit aussi.
Avec le bouche à oreille.
Eh ben, très bien, et on vous en remercie.
Je voulais dire à M. Stéphane Gatignon qu'il a la chance d'être à France Inter ou France Info, parce que c'est différent, le service public, par rapport aux autres radios, aux autres télés.
Ben merci de ce commentaire élogieux. Merci beaucoup, Laura. On va s'intéresser à votre question précise.
Ce sont des contre-vérités. Je vous ai vu chez la chaîne de Bolloré, mais c'est atroce. Je voulais simplement, on a oublié le volet culture. C'est-à-dire, bon, on n'a pas besoin de les amener, bon, vous savez, au musée, voir certainement un concert de musique classique, mais les bibliothèques municipales, moi à mon époque j'ai 55 ans, ça fait 150 ans que nous sommes en France, mon grand-père était mineur de fond, mon arrière-grand-père ouvrier, et mes deux grands-pères ont combattu contre les nazis, j'en ai marre à l'antenne, pas sur votre antenne, mais là une fois pour toutes je le dis parce que je suis en fin de vie, hein. Moi j'étais soignante, j'étais une très belle femme, je me suis
fait 55 ans, en fin de vie, vous y allez fort.
Non, je me suis fait embêter par des hommes politiques, j'étais avec mes patientes, je suis rentrée à la police, pareil, dans les années 80, c'était pas évident, hein. Oui, j'ai 55 ans, je le dis. Bon, je suis à fin de vie, mais j'ai reçu beaucoup d'amour de mes patients et mes patientes atteintes de la maladie d'Alzheimer, dans tous les milieux.
Merci,
et
Laura.
Une richesse. Je suis toujours fille d'ouvrier.
Laura, on va laisser notre invité vous répondre, on a bien compris.
Oui. Mais on a oublié le volet culture.
Eh bien, on va poser la question à Stéphane Gatignon.
Oui.
Merci Laura, on a bien compris. Est-ce que la bibliothèque, la culture,
c'est un gâchignon là-dessus?
Oui, absolument.
Il y a des passages importants dans le rapport Borloo là-dessus, et on travaille énormément sur les questions de la culture. Nous, je disais tout à l'heure, on a ouvert à Sevran notamment la Microfolie avec différents musées. On a des accords avec 9 musées nationaux.
Oui, mais est-ce que ce chapitre est absent du projet Borloo?
Non, ce chapitre est dedans aussi, comme le chapitre du sport, comme comment redonner du sens et de la confiance, notamment aux cadres intermédiaires qui font que les choses se passent dans le mouvement sportif, mais aussi culturel, sur le terrain. Voilà, on a un gros travail, par exemple, nous, à Sevran, on vient de re-signer avec le ministère de la Culture tout un travail sur les bibliothèques et la transformation des bibliothèques en médiathèques et la question d'ouverture le week-end qui nous pose tout un tas de questions aussi pas simples. Hein. Ça fait longtemps qu'on essaye d'ouvrir le soir et le week-end, mais on a des discussions notamment salariales qui sont complexes là-dessus, je dois aussi le dire,
travail
parce que c'est un travail du dimanche, c'est pas si simple. Mais on disait tout à l'heure, aujourd'hui nos bibliothèques, par exemple, sont des lieux pour notamment les jeunes au collège et au lycée, qui sont essentiels à la fois pour travailler, réviser. C'est-à-dire qu'il y a bibliothèque, il y a le lien au livre, il y a le lien aux nouvelles technologies, mais il y a aussi
il y a le cadre.
Le cadre pour travailler souvent dans des foyers. N'oublions pas aussi qu'il y a des suroccupations de logements. Une partie du travail et de la réussite scolaire, on parlait de l'éducation tout à l'heure, ça passe aussi par ces lieux apaisants où les jeunes peuvent travailler.
On va retourner au standard Stéphane Gatignon avec une question de Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour Monsieur Gatignon, merci pour parler de l'éducation, justement, ça vient bien à propos. Voilà ma question, c'est déjà une remarque après une question. Vous prenez effectivement des publics mixés et puis je trouve ça très très bien. Au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'école, effectivement, vous avez raison. Ceci dit, moi, je passe régulièrement à la rue Alfred Nobel. Et là, je constate qu'il y a une école, effectivement, privée. Je ne suis pas contre les écoles privées, mais quand je vois, en tant qu'enseignante, des enseignantes de cette école privée voilées, ça me gêne, parce que je suis toujours pour les valeurs de la République. Et vous également en tant que maire, et moi ça me choque.
École coranique, école privée, incompatible avec la République ? Non, je crois pas.
Absolument pas, école privée musulmane. C'est une vieille histoire, c'est-à-dire que ça a été aussi un des enjeux, je pense que c'est un des enjeux de notre société aujourd'hui. Cette école, elle existe depuis 3 ans maintenant ici, mais elle a existé avant, dans les appartements, dans les LCR et tout ça, c'est-à-dire qu'on avait tout un tas de jeunes. Les LCR, c'est les locaux de rez-de-chaussée dans les immeubles et qui sont souvent associatifs et tout, et parfois détournés de leur usage. Et donc, pendant 10 ans, il y a eu ça, il y a eu diverses discussions et tout. À un moment, j'ai rencontré les gens qui portaient ça et j'ai dit, il faut qu'il y ait. Vous avez un projet d'école privée dans le cadre de la République. Les écoles privées, il y en a. Il n'y a pas de problème. Il y a des écoles. À Orincy, à côté, il y a toutes les écoles privées arméniennes, juives, catholiques, etc. Nous-mêmes. Les écoles catholiques en ville. Donc, vous avez ce projet-là. Il faut que ce soit lisible, parce qu'il faut arrêter que ce soit dans les quartiers, dans les appartements, dans les LCR et tout. Il faut que ce soit lisible sur la voie publique. Il faut qu'il y ait un contrat d'association qui se construise avec la commune, mais avec l'éducation nationale. Ils sont répertoriés à la préfecture. Et donc, c'est un projet, effectivement, d'école privée musulmane qui est en train de se mettre en place. Et si on veut réguler aussi ce monde-là, et ces questions-là, il faut qu'on sorte tout le monde de la cité pour que ce soit lisible, ancré dans la République, justement, le lien avec la préfecture, avec l'éducation nationale, et qu'ils aient le contrat d'association.
Parce qu'on vient d'entendre, effectivement, ça reste un sujet de crispation, dont le maire a la charge une de plus, en rappelant qu'Emmanuel Macron devrait se prononcer sur le plan Borloo avant la fin du mois de mai. Vous espérez qu'il y aura beaucoup de mesures.
Je pense qu'il faut qu'il prenne le plan Borloo dans son ensemble. Et puis ensuite, ce que je dis, la révolution culturelle, ça veut dire qu'il va falloir faire bouger les lignes dans les services de l'État aussi.
Merci Stéphane Gatignon d'être venu nous faire part de votre expérience sur la vie dans les quartiers. Merci beaucoup et bonne journée.